Entretien avec Madame Vince, vice-présidente de l'association de parents d'enfants accidentés par strangulation.
Qu'est-ce que c'est que ce jeu du foulard ?
Alors, ce jeu du foulard, dont on croit très souvent que c'est quelque chose qui n'existe plus, ou qui n'a, auquel les enfants ne jouent plus, ou quelque chose qui est totalement un épiphénomène, c'est en fait quelque chose qui tue au moins 10 à 15 enfants par an en France. Donc ce jeu, c'est vraiment, on continue à l'appeler, nous, jeu du foulard, et on y tient, parce que cette appellation, les enfants, quand ils jouent à ça, ont vraiment l'impression de jouer. C'est-à-dire qu'ils pensent fondamentalement que c'est un jeu, qu'il n'y a pas de risque, et en fait c'est un jeu mortel, ils ne se rendent pas compte et ils se font piéger. Alors pour faire très rapidement, c'est quoi ce jeu ? Ça commence dans les cours de récréation de maternelle, où on commence à jouer avec sa respiration en jouant au jeu de la tomate. C'est-à-dire, on essaie de rester le rouge le plus longtemps possible et éventuellement d'arriver à une espèce de sensation de pré-pré-début d'anoxie où on a la tête qui tourne un petit peu. Donc ça, c'est les premiers jeux, c'est les premières manifestations où on joue avec sa respiration pour essayer d'avoir une perception un petit peu modifiée, des sensations modifiées. Et puis après, il y a une espèce de chaîne d'évolution où on se compresse le sternum, on se compresse le cou, on s'appuie sur les carotides, jusqu'à la version finale qui est la version mortelle, puisque d'autres versions, a priori, ne sont pas... a priori, si ça se passe bien, il n'y a pas de problème. Non. Mais la version mortelle, c'est la version où l'enfant qui a déjà joué à ça... Et qui a trouvé que c'était très amusant de se mettre dans cet état-là, essaie de reproduire ça tout seul dans sa chambre, chez lui, ou dans sa chambre, enfin, en général, c'est 90%, c'est dans sa chambre. Et donc, il essaie d'exercer une compression sur son cou pour reproduire l'effet. Sauf que le corps humain étant bien fait, ça ne marche pas. On ne peut pas s'auto-étrangler. Donc, ça ne marche pas. Donc, il prend un lien.
Il faut donc intervention d'un accessoire extérieur.
Voilà, alors les liens, c'est des ceintures de judo, des ceintures tout court, des cordes à sauter de petites filles, des longes de cheval, tout type de liens. Et ce qu'il va faire, enfin bon, je ne vais pas rentrer non plus dans les détails, mais il va essayer d'avoir une compression très forte au niveau du cou pour se retrouver dans cet état entre deux où on est où effectivement l'oxygénation du cerveau est amoindrie, donc on se retrouve dans un état un peu second avec la tête qui tourne. Sauf que si il prolonge, et là il s'agit de quelques secondes, s'il prolonge un tout petit peu trop cet état-là, il y a un risque de tomber en syncope ou d'arrêt cardiaque brutal, parce que quand on appuie dans cette zone-là, il y a soit un phénomène qui provoque l'arrêt cardiaque, soit effectivement l'évanouissement lié à la non-oxygénation du cerveau. Et là, l'enfant tombe souvent sur ses pieds, il est encore sur ses pieds, il n'est pas forcément en hauteur, et il perd le contrôle, et comme il a un lien autour du cou, les spasmes, il a des convulsions, et il se retrouve en situation de pseudo-pendaison, enfin de semi-strangulation.
Alors, les accidents arrivent surtout quand il y joue tout seul.
Tout à fait. On peut dire que c'est les accidents qui sont les accidents de type fracture du crâne, fracture de la mâchoire, fracture du nez, c'est quand ils y jouent à plusieurs. Un copain compresse les carotides et lâche de manière maladroite au moment du basculement dans l'évanouissement, au moment des convulsions, le copain lâche, et là souvent ils se font mal comme ça parce que le copain le lâche pas bien, donc il tombe, il y a des chutes, des fractures. Mais par contre le caractère mortel, en fait, c'est toujours quand l'enfant est tout seul, puisqu'il se fait piéger tout seul avec cette histoire de strangulation.
Alors, pourquoi est-ce que les jeunes jouent à ce jeu ?
Alors, ils jouent à ce jeu, bon, là aussi, je ne vais pas non plus faire l'apologie de la chose, mais ils jouent à ce jeu parce qu'ils sont... ils sont dans une recherche d'état modifié, en fait. Ça les fait rire comme quand, je sais pas, quand on joue, vous savez, à tourner sur soi-même à toute vitesse, on a la tête qui tourne à toute vitesse. Bon, c'est de cet ordre-là.
Une sorte de griserie.
Alors, plus l'enfant est jeune, plus il joue à ça comme faire la toupie sur soi-même, plus on va vers l'adolescence et plus on augmente en âge, plus on est dans une attitude de conduite à risque, parce que le risque, tout de même, chaque année qui passe se précise et on se rend de plus en plus compte que c'est tout de même excessivement dangereux. Et là, on est dans ce qu'on appelle les conduites ordaliques. Enfin, on joue un petit peu avec la mort, on joue à se faire peur. Mais de toute façon, le plaisir de l'ivresse, d'ailleurs, la musique qui a été écrite sur le sujet que vous allez passer, l'ivresse des cimes, c'est ça. C'est un jeu d'ivresse. Un jeu de euphorisation, d'ivresse.
Donc un sentiment qui peut être très agréable.
Très agréable.
Des risques que l'on prend à ce moment-là.
Voilà. Alors ça peut être aussi très désagréable parce qu'on a les deux échos, c'est-à-dire qu'il y a une version où effectivement on se retrouve dans une sensation qui est un petit peu magique. Et puis il y a aussi plein de fois où ça se passe très mal, il y a des vomissements, c'est pas du tout agréable forcément. Hein. Ça peut être très, très désagréable aussi.
Est-ce qu'on peut dire que c'est une nouvelle mode qui vient d'arriver en France?
Pas du tout. C'est un jeu dont on a l'impression on le connaît depuis les années 50. Hein. Simplement, ce qui se passe, c'est que les enfants y jouent dans une version extrême, de plus en plus. Ils le font de plus en plus, en allant de plus en plus loin. Et cette version avec un lien, etc., existait peut-être pas dans les années 50. Dans les années 50, quand on jouait à ce jeu-là, on y jouait en faisant des grandes inspirations. On prenait plein d'air dans ses poumons parce que ça marche mieux si on le fait comme ça. Et on se compressait le sternum. Cette compression très violente du sternum. Cette compression très violente du sternum faisait cet effet, pouvait conduire à l'évanouissement, mais n'avait pas le caractère mortel et aussi dangereux que d'aller dans la zone des carotides.
Donc il est devenu,
plus dangereux. Plus dangereux. Comme un petit peu tout ce que font les jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire ils font plus tôt, plus fort, plus vite.
Est-ce que c'est un jeu qui est typiquement européen
C'est un jeu, pas du tout, c'est un jeu vraiment mondial qui est excessivement développé aux États-Unis, où il y a depuis pas très longtemps, depuis un ou deux ans, une réelle politique d'alerte et de prévention. Sur certains sites américains, ils estiment à 2 à 3 par jour le nombre de décès sur l'ensemble du territoire américain dû au jeu du foulard. Et il y a, quand on regarde sur les sites Choking Game, ça s'appelle comme ça là-bas, il y a des vidéos, il y a des trucs. Enfin bon, c'est énorme le mouvement de mobilisation par rapport à la problématique du jeu du foulard.
Alors la question fondamentale, que peut-on faire pour prévenir ce risque d'accident ?
Alors, moi je dirais, c'est peut-être un petit peu provocateur de ça, je dirais que ce n'est pas si compliqué. Le problème aujourd'hui, c'est que les enfants y jouent, les parents l'ignorent. Et les parents l'ignorent parce que il y a une espèce d'omerta totale sur le sujet. Et même des parents qui y ont joué, c'est-à-dire qu'on a des tonnes de témoignages d'adultes qui disent, quand on leur explique, ils disent « Mais moi, j'y jouais à ce jeu et j'ai jamais pris conscience des conséquences mortelles qu'il pouvait avoir. » Donc, aujourd'hui, c'est dire aux parents, c'est vraiment très, très important que tous les parents lisent, par exemple, notre brochure qui fait 4 pages, qu'on peut trouver sur jeuduFoulard.com, tout attaché, jeu du foulard tout bêtement en minuscule. Et on lit 4 pages de cette brochure et voilà, on prend conscience de la chose. Et ensuite, on dit à ses enfants, et plus on le dit jeune, mieux c'est, parce que plus c'est facile, que tout jeu avec la respiration et tout jeu où on se met quelque chose autour du cou est interdit, au même titre que tous les interdits qu'on inculque à l'âge de 4-5 ans, les doigts dans la prise, le sac plastique sur la tête, parler à un inconnu dans la rue, cette liste.
Des règles de bonne conduite,
des règles, voilà. Bon, ce que aujourd'hui, il y a très peu de parents qui disent tu joues jamais à un jeu où tu retiens ta respiration, tu joues jamais à. On n'y pense pas. Moi, j'ai 5 enfants, j'ai jamais dit ça à mes enfants. Jamais,
Est-ce qu'il y a des symptômes qui peuvent alerter peut-être ?
Tout à fait. Il y a des symptômes qui sont très bien décrits dans notre brochure. Donc sur jeuduFoulard.com, il y a des maux de tête, des traces autour du cou, bien évidemment. Mais les traces, elles peuvent être, vous savez, des petits points rouges, des toutes petites choses auxquelles plein de parents qui ont leur enfant décédé ont été confrontés. Et les enfants disent « Mais non, c'est rien qu'un suçon » ou « Je me suis bagarré avec un copain » ou « Mais non, t'inquiète pas ». Voilà, donc des maux de tête, des yeux rouges, des douleurs d'oreilles, des traces autour du cou, bon, alors plus grave, des crises d'épilepsie, enfin des choses comme ça. Bon, tout ça, c'est des signes. Alors, bien évidemment, je suis pas en train de dire que tous les enfants qui ont mal à la tête, on doit penser qu'ils jouent au jeu du foulard. Mais il faut mettre ça dans les possibilités. Moi, personnellement, j'ai consulté trois ORL avant la mort de mon petit garçon qui était très jeune et qui avait 8 ans et demi. Mmh. Il avait des douleurs d'oreilles très violentes, très fulgurantes, qui s'arrêtaient au bout de quelques heures. Mais de temps en temps, il avait ces douleurs qui étaient totalement inexpliquées. J'ai consulté trois ORL qui m'ont dit qu'il avait des oreilles parfaitement normales, qu'il n'y avait rien. Et aujourd'hui, je suis persuadée que c'était lié à ça. Oui. Donc voilà, donc il faut que les parents, mais aussi le corps enseignant, mais aussi le corps médical, parce que aussi bizarre que ça puisse paraître, le corps médical n'est pas plus alerté, enfin certains, mais pas tous, sur ce sujet. Et à chaque fois qu'on communique sur ce sujet, on s'aperçoit que des tas de médecins, de professionnels de la santé sont atterrés de découvrir ce phénomène qui est très peu connu, très très peu connu.
Est-ce que les pouvoirs publics ne devraient pas s'impliquer un peu plus parce que c'est énorme, 10 à 15 décès par an en France?
C'est énorme et c'est pour ça que nous, on a un vrai travail de tentative de mobilisation sur le sujet pour que, effectivement, par exemple, une des premières mesures qu'on a demandé à l'Éducation nationale, c'était une mesure simple qui est de prévoir dans les formations des instituteurs, dans les IUFM, que tous les instituteurs, les écoles d'infirmières et les écoles de médecins, de médecins scolaires, aient une heure de formation dans leur formation pour que tous les nouveaux arrivants sur le marché de l'enseignement et entendu parler de ce phénomène. Il y a besoin d'une heure pour expliquer ça à peine. Ça, c'est quelque chose qui est facile à faire, mais bon, le mammouth est difficile à remuer. Pour l'instant,
sensibilisés.
Et c'est vrai que Françoise Cochet, qui a créé l'association, se bat depuis 6 ans, et que finalement, quand on fait le bilan de l'avancée, c'est vrai qu'il y a eu plein d'articles par-ci, par-là et tout, mais il n'y a pas eu un mouvement de mobilisation et une prise de conscience. On a toujours l'impression que c'est un petit fait divers malheureux qui s'est passé. Alors, il y a un petit article dans un journal local, là, c'est dommage, etc. Et puis, comme il y a eu une grosse mobilisation dans les années 2003-2004 ou 2002-2004 sur le sujet, maintenant, les médias pensent que c'est plus très à la mode comme sujet, et ça génère ce que je disais en introduction, c'est les gens disent « Ah bon, ça existe toujours, ce truc ?» Eh bien oui, ça existe toujours. Voilà, il y a 4 enfants qui sont morts depuis novembre, là. Donc oui, ça existe toujours, oui, ça continue à tuer nos enfants, et on joue pas notre rôle d'adulte pour l'instant parce qu'on ne prend pas le problème à bras le corps.